Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et bonjour à tous, c'est Capture Mag, le podcast hebdo, et nous sommes le 9 juin, et c'est formidable, il fait très beau, il fait très chaud surtout, et on a chaud là, tous les trois, on est au Studio B, et je suis entouré, comme d'habitude, d'excellents journalistes cinéma, avec qui nous allons aborder des sujets non moins excellents, et en tout cas j'espère passionnants. Bonsoir Stéphane Moïsakis.
Salut David Ogier, comment ça va?
Mais écoute, depuis la dernière fois, ça va.
Mais bon, j'ai cru comprendre que tu fais des infidélités à Roland Emmerich ces derniers temps. Hein? Quand t'allais voir des films de Ron Howard?
Qu'est-ce que c'est?
Tu montes des films de Ron Howard à ta fille?
C'est vrai. J'adore Apollo 13.
Tu lui as montré en direct sur Red TV?
Non, je lui ai montré Apollo 13. Sur ça, elle a été fortement impressionnée du haut de ses 9 ans. De savoir que c'était une histoire vraie. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qui est assez incroyable. Et je n'ai pas de passion particulière pour Ron Howard, même si j'aime certains de ses films. Mais je
le
trouve...
Grinch, tout ça.
Non, je serais plutôt Backdraft, mais... voire Splash, tu vois. Mais je trouve que Apollo 13 est un des rares films, car il y en a très peu, qui parle de la NASA et qui parle de l'exploration de l'espace avec beaucoup de réalisme et surtout beaucoup de talent.
Enfin, Armageddon.
Oui, alors aussi, bien sûr.
Réaliste.
Et
la NASA.
Et talentueux. Voilà. Bonsoir Julien.
Bonsoir. Non, mais merci de recentrer le débat. Là,
c'est de recentrer le débat parce que là, on est parti loin. Non, j'attends un peu pour lui montrer l'étoffe d'Euro parce que c'est beaucoup plus long.
Et c'est beaucoup mieux aussi, non?
C'est pour ça qu'il attend un peu, en fait.
Aussi, mais j'ai peur qu'elle s'ennuie et que ce soit le début, mais beaucoup de temps. Moi, j'adore évidemment la teuf des héros de Philip Kaufman, je vous le recommande. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil d'achat, achetez la version du 30e anniversaire qui est en Blu-ray US. Elle est non zonée et elle n'a rien à voir au niveau de la qualité de l'image avec le Blu-ray français qui est pourri.
Ah oui, c'est chez Warner aussi, ça aurait été même.
C'était du 70mm en plus.
À l'époque, ouais. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma en 70mm. Quelle claque hallucinante. C'était dans la salle en bas des Champs-Élysées, qui était la salle de Dassault à l'époque. Et vraiment, c'est sublime film. Et donc, la copie, en tout cas, du 30e anniversaire, le Blu-ray est...
Eh bien, tout cela ne nous rajeunit pas.
Non.
David Ogier.
Non, parce que le 30e anniversaire a déjà quelques années maintenant. Bref, pour revenir au Capture Mag d'aujourd'hui, nous allons parler de chefs-d'œuvre tels que La Momie de Alex Kurtzman qui sort
en
au cinéma,
salle.
Ouais. Qui sort en salle.
Incroyable.
On va peut-être pas annoncer le sommaire parce que les gens vont partir.
On va parler de Revenger de Walter Hill qui lui le sort en camp Blu-ray et DVD. Et
ouais, après un passage en e-cinéma.
Oui, tout à fait. Et on va parler de Free Fire de Ben Whisley. Et c'est Julien qui va nous en parler. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pas grave, hein, je vais apprendre.
On va faire ça dans l'ordre.
Moi non plus, en fait.
Allez, commençons. Je vais mettre une musique dramatique pour parler de La Momie.
Tu vas pleurer quand tu vas entendre la vraie musique du film, hein.
Ah ouais, parce que alors là pour le coup, je vais pas vous remettre de Jerry Goldsmith de l'époque, mais c'est un des grands thèmes de Jerry Goldsmith, la musique de La Momie de Stephen Sommers qui date de 99 si je me souviens bien. Et je me souviens avoir eu la chance, je parle de ma vie, mais vous adorez ça, de voir le dernier concert de Goldsmith au Barbican Center à Londres. Et je vous avais expliqué pourquoi Goldsmith n'avait pas fait la musique du 2.
C'est vrai que c'était Alan Silvestri, non?
Alan Silvestri qui a fait un excellent travail d'ailleurs. Et bien Goldsmith n'a pas fait la musique du 2, car à ce concert du Barbican Center, Goldsmith a joué la momie, et pour présenter le truc, il a dit qu'il avait fait la musique d'un petit film de merde l'année d'avant, et que comme c'était l'actualité, il allait nous la jouer sans nous préciser ce que c'était, et il a démarré sur la momie. Il se trouve que Stephen Summers est un grand fan de Goldsmith et qu'il était dans la salle. Et donc, il n'a pas reconduit le contrat de Jerry Goldsmith.
Et c'était bien Goldsmith qui avait fait le film précédent de Stephen Summers,
ouais, dans Un cri dans l'océan. D'ailleurs, c'était très bien aussi. Ouais. C'était très bien. Goldsmith a pondu deux excellents scores à la suite. Il y a eu La Momie et il y a eu Le 13e Guerrier à peu près au même moment.
Rafik, si tu nous entends.
Dans la même veine, dans la même inspiration. Ouais.
Mais ce qui est vachement drôle, c'est qu'il ne dit pas du mal des films de Fred Chepizzi, par contre.
Non.
Dont il a fait tous les scores
aussi.
Il
était un peu paradoxal là-dessus, Jerry Goldsmith. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que même en détestant les films, il était capable de faire des musiques absolument dantesques. Et pour revenir au 13e Guerrier, qui est aussi un très très grand score, faut pas enterrer non plus le score qu'on peut trouver de Graham Revell, qui avait travaillé sur une première version du score, qui est Eaters of the Dead, et qui est formidable dans un registre totalement différent.
Ouais. C'est vrai.
Et qui est super. Voilà, cette parenthèse étant refermée, passons aux momies de 2017.
Alors,
avec Tom Cruise. Et Stéphane, tu vas nous en parler en bien, forcément.
Ah ouais, écoute, on va crever le suspense tout de suite. Ok, c'est de la merde. Non mais voilà. Donc maintenant j'arrête la critique, on passe au truc suivant. Et, écoute, c'est de la merde pour plusieurs raisons.
Quand tu vois la bande annonce, t'as pas envie.
Non, t'as pas envie, mais le truc c'est que ils ont j'ai l'impression qu'ils ont un atout qu'ils arrivent vraiment mal à intégrer dans le film, qui est Tom Cruise. Et j'ai l'impression que c'est leur seul atout, parce que véritablement leur logique de Dark Universe derrière, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire une espèce de...
On va en parler juste après, mais termine sur le film lui-même, quoi.
Le film lui-même, en fait, le truc, c'est que c'est ni fait ni à faire. C'est, tu sais pas si c'est un film d'aventure ou un film d'horreur, tu sais pas si c'est déjà c'est un PG-13, donc forcément c'est quand même assez difficile de faire certaines scènes horrifiques. C'est un film réalisé par Alex Kurtzman, qui est scénariste de Transformers, c'est Star Trek de J.J. Abrams,
surtout de J.J. Abrams, en fait.
Voilà, c'est il avait fait The Island aussi.
Tant que scénariste.
Ouais. Voilà, avec Roberto Orci.
C'est pas mal, The Island.
C'est quand même un très mauvais scénariste. Moi j'aime bien Michael Bay, j'aime bien les Transformers et tout, mais bon, c'est pas sur les scénarios qu'on les juge, ces films là on est d'accord?
Non,
bon,
c'est sûr.
Donc le truc c'est que voilà, et Star Trek, bon, à part trois entourloupes pour rebooter la franchise, que je pense qu'on peut tout aussi bien attribuer à J.J. Abrams, tu vois, c'est ça reste quand même assez, moi le Star Trek de J.J. Abrams, je me rappelle surtout de Kirk qui se balade avec les mains gonflées, quoi, tu vois. Donc c'est ce genre de conneries que je retiens, malheureusement mon cerveau ne veut pas retenir le reste, tu vois.
Si t'avais cette idée du fait que ça se passe dans un univers parallèle.
Et le truc c'est que c'est pour moi c'est un scénariste un peu qui a longtemps cherché à percer dans la réal.
Il devait réaliser le dernier Star Trek.
Voilà, justement, exactement. Et en fait, Universal lui a collé un autre blockbuster qui est donc ce reboot de La Momie. Qui donc est censé lancer le Dark Universe.
Alors,
en soi, attends, mais ça fait partie des problématiques du film,
clairement,
qui sont là, qui est censé lancer la logique du Dark Universe, qui est en gros un univers à la Marvel, enfin on va dire, en gros
basé sur les monstres d'Universal.
Exactement.
Donc, il y a eu une belle photo d'ailleurs qui est passée, où on voit tous les acteurs qui vont participer à ce Dark Universe.
Et tu trouves c'est une belle photo, toi? Enfin, moi j'ai l'impression de regarder une photo de, comment elle s'appelle,
C'est sympa,
de tous les photographes, de journalistes, enfin
de rigolo, variety, quoi. T'as Bardem,
mais putain, mais mettez-les en costume. Bon,
oui,
écoute, au-delà de ça,
parce que
si c'est pour annoncer que Johnny Depp est invisible alors qu'il est bien visible sur la photo, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, le truc, si tu veux, c'est que comment dire, donc c'est un film qui pour moi c'est ni fait ni à faire, ça fonctionne pas en fait, si tu veux. Le personnage de Tom Cruise, qui est donc un peu j'ai l'impression qu'il est rentré au chausse-pied là-dedans pour essayer d'avoir un espèce de lien narratif avec tous les films à venir, qui pour le coup sont quasiment pas annoncés. Si tu veux, à part un détail par-ci, un Dr. Jekyll par-là, et dans des scènes mais absolument ridicules, enfin Russell Crowe est ridicule dans le rôle de Jekyll et Hyde, quoi. On est dans un espèce de course à l'armement pour sortir le film le plus vite possible, écrire un scénario qui présente rien au final, si on regarde bien la façon dont c'est amorcé. et dans lequel en fait Tom Cruise va essayer d'intégrer ses quelques lubies. Donc il va essayer de faire une scène de cascade en zéro gravité. Personnellement, enfin ça aurait pu être filmé. Comment dire, normalement, ça aurait été pareil, en fait, en tournant la caméra. C'est à ce point de...
Je suis pas d'accord là-dessus. C'est le seul truc pour moi qui est
un seul film. Et puis, t'as Tom Cruise qui incarne... Il y a un sidekick, en fait, dans le film, qui est pareil, un personnage un peu bizarre, avec une espèce d'approche à la Uncharted, en fait. C'est-à-dire qui tape un espèce de pilleur de tombe, en fait, qui se retrouve emmêlé dans l'histoire de la momie.
Comme t'en avais dans le Stephen Sommers, hein.
Oui, bien sûr, mais ça c'était un vrai film d'aventure à l'ancienne, avec, enfin ça se voulait un film d'aventure à l'ancienne, en tout cas c'était placé dans une certaine époque, et alors que là c'est un film contemporain, et le problème c'est que quand on voit comment les mecs essayent de traiter justement la momie dans le contexte contemporain, bah tu te dis que c'est impossible à mon avis, le Bride of Frankenstein qu'ils ont essayé de faire avec Bill Condon, qui à mon avis ne se fera pas, parce que je pense que ce film va vraiment se bider en fait, et ne va pas donner suite au Dark Universe, je vois pas du tout comment ils peuvent intégrer ça dans l'univers actuel, sans, ils peuvent pas jouer avec le gothique. Ils peuvent pas vraiment faire un film d'action ou d'aventure parce que c'est pas, ils essayent de le faire parce qu'ils ont Tom Cruise et que c'est quand même une star d'action, donc on le voit courir, on le voit, comment dire, faire sa scène en zéro gravité, ce genre de choses. Je passe sur le fait que c'est quand même un personnage qui est quand même, particulièrement stupide, qui a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive pour la plupart du temps. Et la plupart des plans sur Tom Cruise, c'est des gros plans en reaction shot, quoi, où il est là, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et tout ça pour arriver à un moment donné, de quelques scènes horrifiques, dont par exemple une scène avec les momies qui l'attaquent sous l'eau. Moi, quand j'ai vu cette scène, j'avais l'impression d'être dans l'enfer des zombies de Fulci, quoi. C'est un film qui est complètement, en tant que film comme ça, en tant que spectacle de blockbuster, en tant que mise en place d'un nouvel univers, en tant que tout ça, ça se plante sur tout. Les terrains, quoi. Mais tous.
Tu disais que le film de Sommers avait, de l'époque, le momie avait des défauts. Je suis d'accord avec toi, mais il avait une grande qualité, c'est qu'il venait combler un vide au niveau du cinéma.
Mais moi, je l'aime bien, le film.
Enfin, moi aussi, j'adore. Ouais, hein, j'aime bien le film de Sommers. Mais j'aime la trilogie, même. C'est pour te dire à quel point je suis pervers.
Ouais. Ça, c'est chaud, quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est que... ça venait combler le vide, le manque qu'on avait d'un truc à la Indiana Jones, tu vois, parce que Brendan Fraser, c'est une espèce de d'aventurier.
Mais bon, à la base, c'est pas ça, la momie.
Non, c'est pas ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça que le film était intéressant, c'est parce qu'en fait, ça venait répondre à plein d'envies, comme Independence Day venait répondre au manque de dogfight de spatial qu'il y avait 10 ans après le Retour du Jedi, tu vois. Mais c'est à peu près la même problématique.
Ce qui est intéressant, et là où il faut, parce que ce qui est intéressant, en fait, dans ce momie-là, et ce qui est intéressant quand tu le compares au travail de Stephen Sommers, c'est que Universal, ils ont une obsession depuis des années et des années, qui est de capitaliser sur Universal Monsters, qui étaient finalement des films relativement cossus, mais c'était pas des super productions comme on les fait aujourd'hui.
Quand même.
Il y avait quand même de l'argent, c'était tourné avec des grands studios, il y avait des vrais beaux effets spéciaux.
Il faut l'aborder aussi d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ont cette obsession aujourd'hui parce que c'est quelque chose.
Parce que les autres réussissent de l'autre côté.
C'est quelque chose qui est dans leur catalogue.
Non
mais regarde.
Qui fonctionne, qui est devenu culte, qui a une grosse partie de leur pack d'attractions, enfin voilà.
Et surtout, c'est extrêmement représentatif d'Universal, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a quelque chose sur lequel Universal peut brander, entre guillemets, c'est-à-dire dire en gros, c'est quoi Universal, c'est quoi le leg d'Universal depuis toutes ces années, c'est les Universal Monsters. Même si Retour à le futur appartient à Universal, a été fait chez Universal, ça reste une trilogie années 80.
Ça restera qu'une trilogie parce qu'ils ont verrouillé la possibilité de faire des suites.
Donc il y avait eu la momie de Stephen Sommers, mais après ils avaient essayé de faire Van Helsing, qui était un film, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié.
Ah oui, tu m'étonnes.
Qui était pourtant à l'époque le alors moi j'avais eu des je connaissais des gens qui enfin je connais toujours d'ailleurs des gens qui ont bossé dessus, qui m'avaient m'assuré que c'était le plus gros budget d'Universal à l'époque et que si le film se plantait, ça allait couler Universal. Le film n'a pas bien marché, mais c'est pas complètement planté non plus.
Mais c'était pas très
mais en tout cas, ça a complètement enterré cette idée parce que c'était déjà une tentative de faire un crossover de tous les Universal Monsters. Il y avait la créature de Frankenstein,
la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'était chez Universal.
Non,
parce qu'il y a les monsters aussi.
C'était
encore autre chose.
Ça vient de Alan Moore et de la
Capture. Et on l'a oublié, pourtant on en avait parlé ici à Capture. Il y a eu Dracula Untold qui est sorti alors il y a 3-4 ans, un truc comme ça.
Attends, tu oublies, il y a un autre film. Il y a un autre film avant et surtout il y a aussi un autre cinéaste. C'est-à-dire que dans à la fin des années, après Van Helsing, t'as Del Toro qui a quand même été vachement courtisé à l'époque
sur Frankenstein
de Hellboy 2. Et on lui a demandé d'aborder. Non, il avait travaillé sur un Frankenstein, mais on lui avait demandé de regarder le truc. Et lui était intéressé par ça, mais finalement, s'est rendu compte que c'était. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà une approche un peu étrange. Et il y a le Wolfman du début des années 2010.
C'est vrai. Oui, mais qui n'était pas en univers croisé.
Qui n'était pas en univers croisé, mais qui était un remake très cossu, quand même, du Loup-Garou, qui devait être fait par Marc Romanek, qui s'est barré une semaine avant le tournage.
Joe Johnston
qui a
rattrapé. Mais le film ne s'est pas vautré parce qu'il tentait d'être un univers croisé. Le problème, par exemple, de Dracula Untold, ou le problème aussi de Van Helsing, c'est que déjà, c'était des films contre nature qui essayaient à la fois de capitaliser sur ce qui fondamentalement reste des films d'horreur. Ils devraient rester des films d'horreur, et que c'est pour ces raisons-là qu'ils sont restés à travers le temps. C'est pas parce qu'ils étaient blindés de thunes ou qu'ils te présentaient des scènes d'action folles et tout. C'est parce que c'était des films d'horreur. C'est ça qu'oubliait Van Helsing, et c'est ça qu'oubliait aussi.
Oui, mais la momie, tu vois, était pas un film d'horreur 100%.
C'est l'exception qu'on fait
celui de Summers, et ça a marché quand même.
Je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de rebooter encore une nouvelle fois la momie. En essayant de faire un univers croisé, en essayant de penser, mais alors là, comme justement le film a le cul entre 10 000 chaises, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, moi j'ai déjà l'impression que c'est un projet contre nature, dans lequel on a foutu artificiellement Tom Cruise, mais pas n'importe laquelle des stars. Je veux dire, s'il y a une star qui est un auteur à part entière, c'est bien lui. Donc tu rajoutes encore une couche.
T'en as quelques-unes, mais je veux dire, quelques-unes dans lesquelles tu peux tracer un trait.
Mais pas c'est producteur vrai, pour
truc,
le coup.
Truc, non, bah face aussi, il a quand même ramené Christopher McQuarrie. Il a une main mise parce qu'il est censé être dans tous les films. Hein. Le seul truc, c'est que c'est pareil. En fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'il représente vraiment. Comme justement il y a eu le Dracula Rising, et ben il y a pas de Dracula qui a été annoncé pour l'instant parce qu'à mon avis
sauf qu'il en fera pas partie, ils l'ont déjà dit.
Ils ont dit
à zéro là-dessus parce que ça a été un fou.
Non mais ils en feront pas partie, mais ils feront un Dracula.
Oui.
Ils rajouteront Dracula dedans, c'est ça
peut-être,
que je veux dire.
Ouais.
Alors Dark Universe c'est quoi parce que ça tu nous as dit que c'est le truc qui fait tourner la machine. Il y a même un logo carrément.
Alors quand le film commence, t'as le logo Universal et en fait la Terre se tourne et il y a écrit Dark Universe. Et l'idée en fait, si tu veux, c'est que ils vont aller chercher plusieurs et il y a déjà des comédiens en fait pour les futurs films. Donc t'as l'homme invisible qui sera interprété par Johnny Depp. Alors encore une fois, moi je dis qui sera interprété, mais sincèrement, on attend de voir les scores de ce film. J'ai vraiment du mal à croire qu'ils vont arriver à lancer le truc. Le seul film qui est vraiment lancé pour l'instant et dont la suite est prévue pendant 2 ans, c'est le remake de Bride of Frankenstein par Bill Condon. Alors Bill Condon, pour les gens aujourd'hui, c'est le réalisateur de La Belle et la Bête, de Dreamgirls, ce genre de film, mais il faut quand même rappeler
de Twilight,
mais il faut quand même rappeler que c'est le réalisateur aussi de Gods of Monsters,
ça c'est important,
et qui était un biopic sur James Whale, donc
réalisateur de La fiancée de Frankenstein,
voilà, c'est ça,
donc il connaît bien le sujet,
mais c'est surtout que c'est un fan,
c'est pas
il connaît le truc, quoi.
Ça garantit absolument rien sur Bride of Frankenstein, même à mon avis, de toute façon c'est une anecdote à rappeler, mais je pense que ça va pas influer sur la balance, parce que encore une fois je vois pas, c'est très compliqué de savoir comment ils vont aborder ce truc là,
surtout la coupe de cheveux.
Bride n'est pas du tout amorcé dans la momie.
Frankenstein d'ailleurs.
Frankenstein sera interprété par. Frankenstein sera interprété par Javier Bardem. T'as une troisième. T'as Jekyll et Hyde qui est interprété par Russell Crowe dans comment dire. Et apparemment donc Russell Crowe, si je dis pas de bêtises, attends parce que j'ai déjà le film, il fait déjà pchit dans ma tête là. Il tient un espèce de consortium en fait qui gère justement tous les trucs paranormaux et ça va être le liant en fait pour.
Il va avoir un salaire. Pour le coup, ils vont le payer tous les mois.
C'est
là.
Terrible parce que tu sens qu'il est pas du tout concerné. Il t'a l'impression qu'il se fait suer là. C'est horrible, quoi.
Ah oui, je vois bien comment il peut faire.
Ah non, mais c'est terrible, quoi.
Le problème, c'est quoi là. Donc ils sont en train d'essayer de. Pour moi, ils le lancent complètement à leur porte-pièce ce truc. C'est-à-dire qu'il y a pas de réflexion qui a été faite là-dedans. Ils ont vraiment besoin, je te dis, d'un atout qui est Tom Cruise, le mettre dedans. T'as Sofia Boutella qui joue la momie. Jolie, elle est charismatique, ça tu peux pas lui enlever, mais le problème c'est que le perso il est...
Elle a rien à défendre, quoi.
Et puis voilà, en gros, si tu veux, elle jette son dévolu sur Tom Cruise parce qu'elle le voit comme l'incarnation de son, comment dire, de son amour, tu vois.
Oui, bah c'est pareil. C'est le scénario à l'envers de celui de Summers, quoi.
Ouais, ouais, mais le truc, oui, ouais. Enfin,
celui de Carl Freund.
Ouais,
oui, oui.
Non, mais sauf que tu n'as pas, si tu fais, parce qu'effectivement, le Summers, il est pas, toi, tu me disais, il est cité, comment dire.
Dans le film,
il est cité dans le film par une petite, un petit easter egg, comme il y a d'ailleurs la créature du lagon, comme, enfin, ce genre de choses. Mais le truc, si tu veux, c'est que, comme de toute façon, au-delà de ça, même s'ils essayent de faire un film d'action, parce que t'as quelques scènes d'action au début avec Tom Cruise, c'est plus du tout en fait la momie de Summers, hein, c'est plus du tout ça. Enfin, je te dis encore une fois, le film il part dans tous les sens. Il essaye vaguement de faire de l'horrifique dans la dernière heure. Le climax c'est anticlimatique, c'est des bastons, hein, c'est du mano à mano, c'est des combats de catch. Hein. Ça s'arrête là.
On s'emmerde, quoi.
Mais ouais, et puis c'est j'ai rarement vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et pourtant le chef op c'est pas
Ben Sarazin,
voilà, tu vois, c'est pas un manchot. J'ai rarement vu un film aussi mal éclairé.
Ouais, c'est tourné, ça
fait
pas
depuis non, des années.
Ça, hein. En fait, ça fait partie de. C'est un film tournant en 35, anamorphique.
Ah ouais.
Moi, ça fait partie de ces films où je regrette que le film soit tourné en pellicule, quoi. Je sais que moi aujourd'hui, Stéphane sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que quand un film est mal filmé, j'aurais préféré qu'il soit tourné en numérique, le film. Mais vraiment, hein,
oui, c'est pas moi, ça clean, en fait.
C'est pas qu'il y a un delta de nettoyage.
C'est pas agréable, en fait, quoi. C'est vrai que du coup, le grain, tout ça, moi ça me déplaît profondément, en fait.
Enfin,
ça,
tu vois, c'est des films qui sont tournés, enfin, j'exagère un peu, mais c'est des films qui sont tournés en contre-jour sur des fonds noirs, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, mais ça, c'est, voilà, t'as un cinéaste, en fait, il faut tourner, faut shooter au kilomètre, et voilà, tu vois.
Moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à parler de cette daube, moi, personnellement, de ce que vous m'avez vendu.
Ouais, voilà, mais en tout cas, voilà. Donc,
c'est un film contre nature.
Voilà, c'est un film contre nature. À mon avis, ça ne va pas donner de suite. Je te dis, ils veulent faire un dark universe, ils veulent faire un truc connecté.
Je pense que le Bill Condon va voir le
jour. Ouais, mais il sort dans 2 ans. Ouais. Tu vois, le truc avec Marvel, c'est que t'as un film tous les 3 mois, même 4 mois, tu vois.
Ouais, 6 mois.
Et le truc, si tu veux, c'est que bah là, pour déjà, ce film ne va
ils donnent
à mon
pas
avis,
les moyens de.
Non, mais
de
ce film ne va pas susciter. Truc, hein. Ce film ne va pas susciter d'envie. Il y a pas de. Il y a même pas le. Ils jouent même pas le jeu de Marvel, c'est-à-dire à faire une scène à la fin en comment dire. En
de,
tout cas,
du MonsterVerse.
Voilà, tu vois.
En tout cas, Tom Cruise mouille la chemise pour la promo. Il est là. On le voit partout.
Comme il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait ça. Il l'a fait pour Edge of Tomorrow. Il l'a fait pour.
Et
pour
tu peux pas lui enlever son implication. Tu vois, je parlais de Russell Crowe. Lui, Tom Cruise, il vient pas cachetonner dans le film. Hein. Il se donne à fond, etc. Quoi. C'est pas pour ça qu'il a, il a sa place. Quoi.
Bon, d'accord. Bah écoute, pour ceux qui ont envie, ça sort le 15. Et sinon, vous le trouverez en téléchargement illégal dans 3 mois. Voilà.
Ah ouais, carrément.
Ah bah, on va pas aller payer pour ça. Hein. Ouais. Bon, allez, je vous encourage pas à pirater, mais quand même. Parlons de choses tout aussi passionnantes.
Allons bon.
J'en sais rien, en fait. Ouais. Non, de Walter Hill, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas agréablement surpris. Alors vas-y, est-ce qu'il nous surprend avec Revenger ?
Alors Revenger, qui est quand même un titre complètement. Bon, tu me diras, le titre américain était à peu près tout aussi passe-partout, c'était The Assignment. Revenger, t'as l'impression qu'il y a ce mec qui essaye de te faire Avengers, mais avec, avec Revenge, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Donc
ouais.
C'est très très bizarre. Écoute, alors moi j'aime bien Walter Hill.
C'est mon
Roland Emmerich à moi, tu vois.
C'est ça.
Si ce n'est non, c'est mon directeur, mon réalisateur alpha male que j'aime bien, tu vois, qui est le réalisateur à l'ancienne un peu, tu vois. Et j'ai toujours du mal à. Bon, il y a une partie de sa filmo sur laquelle je pourrais un peu taper. J'aime pas les trucs à la Geronimo, tout ça, les Wild Bill, quoi. Mais j'ai toujours du mal à comment dire. À lui en vouloir en fait pour certains films, quoi. Déjà il a réalisé pour moi un de mes films préférés qui est Les Guerriers de la Nuit, quoi.
Bah, oui.
et qu'un super film de gang, voilà, enfin si vous l'avez pas
unique.
Vu je vous conseille parfaitement, quoi, qui est à la fois ancré dans la mythologie, dans le comic book je le dis parce qu'il y a un peu de ça, il y a pas de ça dans Revenger, mais il y a un peu quelques trucs qu'il essaye de recaser là-dedans. Et puis qui a fait ma foi quelques sympathiques films d'action des années 80.
Les Rues de Feu,
tu vois, voilà. Bah Les Rues de Feu, Sans Retour, qui est super, moi je trouve.
Qu'un de ses meilleurs films d'ailleurs.
Voilà.
Son meilleur.
Moi j'aime beaucoup Extrême Préjudice.
48 heures, c'était pas lui.
Ouais,
c'est moins. Ah mais j'adore Nick Nolte.
Ouais.
Ça a lancé une mode. Il a lancé un truc.
Ouais,
quoi,
clairement. Et
la musique de Horner.
Et ouais, mais tu vois, il a fait 48 heures de plus aussi après, quoi. Bref. Non, mais cette période de 48 heures de plus, là, il a fait, j'aime bien 13 passes, là, je sais plus comment c'était en Les Pilleurs, je crois, en français.
Bah, voilà. Il avait pas bossé sur Supernova aussi,
Si, ouais, mais il s'est barré. Le truc, c'est signé Thomas Lee. C'est un réalisateur de série B, moi, je trouve, au sens le plus noble du terme. Il a bossé sur des gros budgets avec des stars, hein, mais c'est un mec qui fait des films directs, carrés, sans, qui vont à l'essentiel. Et quelque part, en fait, c'est très étonnant en fait sur un film comme Revenger, parce que Revenger, c'est l'histoire. J'ai du mal à sortir ce titre sans penser à faire un point Avengers, en fait. C'est très bizarre, mais bon, bref. Revenger, c'est l'histoire d'un tueur à gages, en fait, qui, comment dire, qui se réveille un matin, qui est interprété par Michel Rodriguez, c'est un homme, et qui se réveille un matin, en fait, on lui a changé de sexe. Et en fait.
Alors, c'est Michel Rodriguez et Sigourney Weaver dans le film. Hein,
dans le film, ouais, mais il y a qu'une seule personne qui change de sexe, David. Bah, alors, bon, Revenger, voilà, comment évoquer Revenger? Revenger, c'est un film que Walter Hill se trimballe depuis les années 70. De toute évidence, c'était pas le même scénario. C'est un truc qu'il a réécrit, c'était pas lui qui l'avait écrit à l'époque, mais il l'a réécrit dans les années 90, il était pas satisfait de ce scénario-là. Et finalement, en fait, il l'a laissé un peu dormir et il l'a retravaillé récemment en bande dessinée. Et en fait, le développement du film s'est fait en même temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est parti sur cette idée que c'était un vrai concept de film noir à l'ancienne. C'était un gangster, un tueur à gages, en fait, qui change de visage. Et qui donc change d'identité, entre guillemets, quoi. Et en fait, il a ramené ça un peu au goût du jour, il a fait de son personnage, qui est donc interprété par Michel Rodriguez, donc qui est une femme, hein, tu vois, il a fait de son personnage un homme, en fait, un tueur à gages homme, toujours interprété par Michel Rodriguez, à qui on fait changer de sexe, en fait. C'est-à-dire qu'elle a tué le frère de Sigourney Weaver, en fait, en l'occurrence, qui joue dans le film, et
la
comme
Sigourney.
Elle, voilà, et qui... Bref,
fait ce qu'on peut.
Et le truc, en fait, le truc qui se passe, c'est que donc toute l'histoire du film, en fait, c'est Michel Rodriguez qui a du mal à vivre avec le fait qu'il ait changé de sexe. Et du coup, t'es plus du tout dans une vraie série B à la Walter Hill, on va dire. T'es presque par moment dans un truc un peu existentialiste, un peu étrange, un peu, qui traite pour le coup clairement le sujet.
Ça ressemble pas trop à Walter Hill, enfin, ce que tu me dis.
Si, parce que justement, le truc, en fait, qui est intriguant, c'est que c'est quand même un cinéaste un peu de, même si encore une fois, c'est un cinéaste de série B direct et tout ça, c'est quand même un cinéaste qui est dans le, qui a une logique un peu, des fois, de, comment dire.
Autorisante, tu
vois. Ouais, mais
dire.
De mal-être. Non, de traiter un peu le mal-être de ses personnages. Bon, je ne parle pas de double détente ou de 48 heures, comme on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment de comment dire, il y avait un peu de.
Oui, mais ça se traduit en général par l'action, quoi, chez lui.
En fait, il y a une vraie logique de film noir.
À part dans ses westerns.
Ouais, mais là, il y a une vraie logique de film noir, en fait, dans le film, qui est très poussée, en fait. Et effectivement, à part le changement de sexe à proprement parler. Bah, tu pourrais être dans un vieux Bogart, c'était comment Dark Passage, là où il change de, c'est celui-là, je crois, où il change de visage dès le début, en fait. Et sauf que, en fait, il ramène ça un peu au goût du jour. Bon, t'as une fin un peu pétaradante, t'as voilà. Alors, Walter Hill est un vieux monsieur maintenant, il a quand même 77 ans, hein, voilà. Donc c'est plus non plus un film hyper rythmé, hyper vénère. J'ai pas lu la BD, mais ça serait intéressant, c'est une BD qui existe, hein, qui est sortie, qui s'appelle Corps et âme, ce qui est quand même un plus joli titre, je trouve, pour ce sujet-là, en fait, que Revenger, quand même, ou The Assignment.
C'est moins un film d'action, quoi.
Voilà.
Les critiques, je regardais un peu sur le net, sont hyper mitigées. Il y a des gens qui détestent, qui trouvent que c'est un gros nanar, il y en a qui aiment bien.
C'est difficile de dire que c'est un bon film, mais c'est un film étonnant. C'est-à-dire que, en gros, ça pourrait être un gimmick, en fait, cette idée de juste changer d'identité, donc en changeant de sexe, en fait. Ça pourrait être un truc qui est pas du tout traité. Et Walter Hill n'est pas les frères sœurs Wachowski, donc, et il n'a pas connu ce truc-là, en fait. Donc c'est un pur trope de genre, en fait, qui c'est par ce biais-là qu'il le fait. Mais je suis étonné de le voir, en fait, s'attarder, en fait, sur le sujet. T'as quand même des scènes où Michel Rodriguez va voir le médecin lui explique la situation, enfin tu vois, c'est des trucs assez étonnants et elle-même qui se pose des questions. Les trucs qui fonctionnent pas clairement dans le film, c'est Rodriguez en homme, où ils auraient dû prendre un acteur, en fait, simplement pour jouer le rôle et jouer éventuellement avec le numérique là-dessus, parce que t'y crois pas, en fait, déjà parce que tu connais Rodriguez et que même si elle a joué des rôles plus masculins, on va dire, une époque dans sa carrière, hein, comme elle a été connue quand même avec Girlfight ou avec le premier Resident Evil. Ça reste quand même une, je trouve, une actrice féminine. Enfin, il y a une vraie.
Bah, c'est ce qui fonctionnait dans Girlfight, d'ailleurs.
Voilà, ça reste, moi, je trouve une, voilà. Pour moi, c'est une vraie femme. Il n'y a pas de, tu vois. Elle a pas un côté androgyne, c'est ça que je veux dire, quoi. Et le truc, c'est que, mais malgré tout, alors même si ça, c'est, cet aspect-là est complètement raté, le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même aussi un rapport au corps dans le film. Qui est traité aussi, quoi. C'est-à-dire que il y a du full frontal nudity, il y a du questionnement sur le changement corporel et tout. Et donc, en fait, c'est très difficile pour moi de dire c'est un bon film ou un mauvais film. Je peux pas dire.
Un drôle d'objet, quoi.
Mais c'est un film, et ça, déjà, c'est un drôle d'objet venant de la part de Walter Hill, même si, encore une fois, il le traite à sa manière, c'est-à-dire, direct, quelque part, tu vois. Un peu existentialiste, tu vois. Un peu série B aussi, hein, t'as des scènes de flingage, tu vois, j'ai envie de dire, à la façon des années 80, parce que ça reste un film qui fait à la façon des années 80, quelque part. Un peu plus contrôlé que le précédent qui était du plomb dans la tête avec Stallone, où ça se voyait qu'il s'était fait remonter le film par Warner.
Est-ce que c'est satisfaisant du coup?
Moi je trouve, en tout cas je trouve que pour un cinéaste comme Walter Hill, pour un cinéaste comme Walter Hill qui a quand même 40 ans dans la vue, qui a fait je sais pas des westerns, des films de braquage, des films d'action, des buddy movies, des films de gangsters, des bootleggers, tu vois, comme Dernier Recours, qui est quand même un remake du Kurosawa et pour une poignée de dollars, enfin hein, qui se chie pas quand même quand tu balances, il passe quand même derrière Léon et Kurosawa. Bah, je trouve ça bien en fait qu'il arrive à se renouveler à la fois dans la BD, que d'un seul coup il traite ce sujet-là qui regarde pas à côté, quoi, qu'on arrive à lui produire. Enfin, c'est assez étonnant. Donc moi, je conseille de jeter un œil dessus. Il y a une patine film noir qui me déplaît pas. Rodriguez et Sigourney Weaver sont cool. Je crois que c'est Tony Shalhoub, si je dis pas de bêtises, qui est toujours sympa, quoi. Cool. Donc voilà. Mais ça reste un film.
Mineur.
Ouais, c'est anecdotique, mais
un direct to video quoi.
Mais même pas vraiment, c'est ça le pire. Si c'était une vraie scène, c'est un vrai direct to video à l'année 80, bourrin, boum boum, je t'aurais dit ouais, bah voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça. Donc ouais. Du coup, en fait,
c'est plus intéressant que ça.
Et c'est maintenant,
c'est étonnant.
En VOD et tout, c'est ce qui sort. Ces objets un peu étranges, pas très calibrés.
Voilà, ouais. et que tu peux vendre comme un film d'action, mais qui risque de décevoir les gens qui s'attendent vraiment
c'est
à un film d'action.
TF1 Studio, l'éditeur.
TF1 Vidéo.
Non, ça s'appelle TF1 Studio maintenant.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, ça a changé de nom et de logo.
Voilà.
Il y a plus le bleu, blanc, rouge. Il est tout blanc maintenant ou tout noir. Ça dépend du fond. Et ça vaut 18€ chez nos amis qui font de la VPC. En Blu-ray, hein, parce que je vous parle pas du DVD. C'est le Blu-ray plus copie digitale. C'est sorti depuis 3 jours. C'est sorti depuis le 6 juin. Donc,
ouais, c'est ça.
Bon, pourquoi pas, hein. Moi, j'adore Sigourney Weaver.
Elle est bien employée dans le film, mais ça reste un vrai. En fait, elle raconte, en fait, de son point de vue, parce que c'est elle qui fait l'opération. Elle raconte de son point de vue, en fait, son histoire de vengeance à elle. Et Rodriguez raconte de son point de vue son histoire de vengeance à elle aussi.
T'as regardé la VO ou t'as regardé la VF?
Non, VO, bien sûr.
VO, bien sûr. C'est intéressant, les VF avec Sigourney Weaver, pour savoir si tu as toujours sa voix.
Normalement, oui.
Normalement, je pense. Mais bon, tu vois.
Je signale ça parce que chez Audible, nos amis d'Audible qui font du livre audio, qui diffusent d'ailleurs l'excellent label Ardigan que j'ai la chance de diriger, ont sorti un épisode d'Alien en audio, la remontée des profondeurs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est intéressant parce que c'est une histoire qui se situe entre Alien et Aliens.
Je l'écoutais, j'ai écouté une partie de ce truc.
Et c'est la voix.
Mais je l'ai pas reconnue, sa voix, tu vois.
On la reconnaît quand même, mais elle a vieilli, en effet. Donc par rapport à la voix qu'elle avait jeune, ça fait un petit hiatus. Mais je trouve quand même que le travail de mise en scène radiophonique est vachement bien foutu. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'effets sonores, d'ambiance et tout.
C'est une super actrice. Hein,
c'est une super actrice. Si vous voulez découvrir un truc original avec Alien, vous avez Alien, la sortie des profondeurs. C'est soit en série, soit en intégrale. Ça fait 4 heures et quelques d'écoute. Ça s'écoute très vite. Hein. C'est très, très sympa. C'est pas un scénario à tomber par terre. D'ailleurs, on se doute de ce qui se passe plus ou moins vers la fin, parce que vu que ça vient faire le lien entre le 1 et le 2, on imagine que ça va pas révolutionner l'univers. Mais faut avouer qu'il y a quelques petits passages assez rigolos. Et moi, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Voilà, c'est original et c'est donc la voix de Sigourney Weaver en français. Donc ça, voilà, passons à la suite.
Allez.
Et la suite et la fin.
Allez, on va se réveiller avec Free Fire là.
Ouais, Free Fire
c'est
de Ben Whisley.
Nous lancer là-dessus, ouais.
Ouais, c'est ça. Ça sort en salle la semaine prochaine. Ouais.
Ça aurait pu ne pas sortir en salle.
Vas-y Julien.
Aussi, ouais.
Vas-y Julien.
Alors moi, pour être tout à fait honnête, je connais pas bien moi ce réalisateur qui a une petite oracule depuis quelques années. J'ai pas vu qu'il lise. Le seul film que j'avais vu avant de lui, c'était High Rise, et ça a été déjà une grosse douche froide. Ah oui, sorti de là, je me suis dit waouh.
Ouais, il a fait un autre truc qui s'appelle Touriste.
C'est chaud. Ouais, ouais. Mmh. Et en fait, c'est un mec qui tourne beaucoup, hein.
Ouais, c'est un film par an, limite. Hein.
Et c'est quasiment, mais c'est surtout, il tourne beaucoup pour la télé. Il a fait plein d'épisodes de Doctor Who. Il a fait beaucoup. Oh,
ça, c'est plutôt bien.
Ah, écoute, ça peut être bien.
Non, mais travailler pour Doctor Who, c'est sympa.
Sauf quand ça se sent dans un film comme Free Fire.
Ah.
Pour replacer le contexte de Free Fire, c'est que c'est encore un film concept. C'est en gros une scène d'action. C'est un trafic d'armes, une vente d'armes illégale dans un hangar. Donc c'est un huis clos, on va rester dans cet hangar, qui tourne mal. Du coup, il y a plusieurs camps qui se créent dans le hangar et les mecs se tirent dessus. Et donc ça va être qu'un gunfight quasiment pendant, on va dire, une heure et quart, quoi, le temps de mettre un peu les choses en place et de résoudre le film. Alors moi, très bien. J'achète.
Oh bah moi, un concept comme ça, ouais, clairement.
J'achète, et ça, c'est cool. En plus, moi, j'achète parce que je lis une preview d'Empire et je suis très bête. Je crois un peu à ce qu'on me dit dans la preview d'Empire et je vois que Ben Wheatley, il est connu aussi pour ça. Et c'est très paradoxal, d'ailleurs, je trouve, quand tu vois le film, c'est un mec qui prépare énormément ses tournages. Il fait beaucoup de storyboards, il fait beaucoup de photoboards aussi. Ils ont fait tout un travail de repérage sur l'emplacement de chaque opposant, en fait, à l'intérieur du hangar, etc.
Et alors tu vois le film,
et je vais pas y aller par quatre chemins, en fait. Le problème, c'est que tu ne sais jamais où sont les personnages. Tu sais jamais qui tire sur qui. Tu sais jamais qui se déplace vers où. Et du coup, c'est absolument incompréhensible.
D'accord.
Et ça t'aliène, mais totalement tous les spectateurs. Enfin, moi, je ne vois pas comment tu peux prendre du plaisir à ça. Et c'est là où je reviens sur le fait qu'à mon avis, Ben Wheatley, pour moi, hein, de ce que j'ai vu et ce que je ressentais si dans les races, j'ai l'impression que c'est un shooter, en fait, le mec. C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive et qui va réussir à t'emballer. On va dire, j'allais dire à peu près proprement, mais c'est pas le cas parce que c'est pas très propre, mais qui va t'emballer un film, disons, podcast, en très très peu de temps, et puis du coup à réunir un joli casting, une jolie distribution parce que ils ont.
C'est produit par Film Fort, hein, c'est donc la télé qui a produit ça là-bas.
Ouais, alors
oui, c'est anglais,
cinéma,
hein,
c'est le cinéma. Il y a un problème aussi dans Tourloupe là-dedans, je trouve. Tu parlais de DTV avec Revenger, ce qui est un peu difficile à, comment dire, encore une fois, on me disait tu peux pas conseiller ça comme un DTV, mais celui-là, si ça se passait pas dans les années 70, comme c'est censé être le cas, tu vois, avec une espèce de logique un peu, comment dire, funky, à l'ancienne et tout, ça serait, bêtement, hein, un rip-off de genre une pompe, hein, totale de Reservoir Dogs ou À toute épreuve, tu vois, ce genre de truc. Toute proportion gardée. J'ai vu Julien lever les yeux, tu vois.
Non, moi je suis pas forcément.
Et un DTV de base. Ça serait un DTV de base, littéralement, parce que à part ce casting, tu vois, il y a quand même un casting de
qualité.
Bah, t'as Charles Tocoplet.
C'est surtout
t'as quelques acteurs montants, on va dire. Comment elle s'appelle, l'actrice?
Brie Larson.
Voilà, t'as qui va quand même être dans Captain Marvel, tu vois. T'as quelques acteurs comme ça et
Ian Murphy.
Voilà, et c'est comme ça qu'il a réuni son budget aussi, je pense, hein,
oui,
simplement,
clairement.
Quoi. Et quand je dis c'est un truc dans Toulouse, c'est ça, c'est qu'en fait il a eu tout ce casting d'un coup. Il y a ce côté funky 70s. Attention, on revient donc à une espèce de, comment dire, de trucs de hableur, des mecs qui parlent, sauf que les dialogues sont d'une pauvreté absolue. Et surtout, il y a un truc, c'est...
Vous y allez quand même.
Ah ouais, mais surtout, il y a un truc, c'est que ça... Je veux dire, il y a pas seulement le fait que tu comprends pas qui est qui tire sur quoi, c'est que t'as pas de production design à proprement parler. Si dans ce décor-là, t'avais ne serait-ce que, je sais pas, une peinture gigantesque, quelque chose, en fait, pour te donner le centre du décor, que t'arrives à comprendre où les choses se positionnent, que ça ressemble... Parce que dans une autre émission, on parlait de jeux vidéo et tu disais on parle pas beaucoup de jeux vidéo, mais il y a un truc en fait dans le jeu vidéo, quand tu joues à des jeux d'action, c'est que t'en as marre d'être dans des entrepôts. C'est quand même le lieu dans un jeu vidéo le plus facile à retranscrire parce que tu peux te cacher, tu peux faire des trucs, etc., etc. Donc si tu veux faire du furtif ou de l'action, tu peux faire ça. Voilà.
Il y a des escaliers.
Mais là c'est pareil. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en gros c'est un entrepôt gigantesque qui n'est pas du tout travaillé, qui n'existe pas. On est très très loin de Nidgep par exemple de Florent Mio-Siri où t'avais un vrai travail autour du truc pour le rendre vivant en fait, que t'as pas du tout là-dedans, et surtout ça manque littéralement d'idées. C'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, les mecs se disent comment on va se sortir de là. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un téléphone au bout de 50 minutes dans le truc. Et en fait, ils se disent on va traverser pour aller chercher le téléphone. Et paf, t'as 15 minutes de steam supplémentaire pour qu'ils arrivent jusqu'au téléphone. C'est ce genre de truc.
Ils ont combien de balles dans le film?
Ils en ont plein, puisqu'il y a un trafic d'armes.
C'est un trafic d'armes, c'est ça l'entourloupe au début, tu vois.
Mais tout ce que dit Stéphane est complètement vrai, hein. Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal, parce que il se trouve qu'il a fait que je travaille un peu sur le film, que je fasse des recherches et tout. Il y a un énorme travail de décor.
Ah, c'est fou.
Mais c'est fou, hein. Mais
ça se voit pas, quoi.
Non, bah, enfin,
ça se ressent pas.
En fait, c'est pas payant. Je pense qu'il y a pas de point de vue de cinéaste en fait là-dessus, quoi. C'est-à-dire que le mec, il vient et il y avait besoin d'un travail de décor pour X ou Y raison, mais voilà.
Ben Weasley.
Ouais. Et moi, je reviens encore une fois sur cette problématique de réalisation de mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée, on va dire scénaristique, mais il n'y a pas d'idée non plus de mise en scène. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un travelling au ras du sol qui te réutilise 4 fois. Hein. Mais moi, quand je l'ai vu arriver, ce travelling, j'étais content, quoi. J'étais content, je me suis dit, putain, il y a un travelling, quoi. Ça t'a pas fait ça, toi?
Non.
Et je me dis, il y a un travelling.
Non, mais moi, tiens, le film.
C'était tellement pauvre et tout. Et c'est vrai que c'est super nul. Alors, moi.
Il a pas grand-chose à raconter, quoi.
Moi, le seul truc, c'est qu'il y a Charlton Copley.
Ouais, je l'adore.
Et moi, j'adore ce mec-là.
Ah oui,
et en plus,
Strict 9, j'adore Charlton Copley.
Il fait une espèce de. J'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est un peu le seul qui se marre vraiment, d'ailleurs, dans
oui,
dans
probablement, mais le.
Et il fait un vrai personnage, en plus, d'Africain, de Sud-Africain, avec son accent à mort, là. Et ça, c'est agréable, ça fait passer le temps, un peu.
Le problème aussi de l'écriture, c'est que t'as des espèces de relations entre les personnages qui sont à la limite du compréhensible, en fait. C'est-à-dire que.
Si tu ne les comprends pas. Quasiment tous, quoi.
Voilà, ils débarquent. Et, par exemple, tu as cette relation entre Cillian Murphy et comment elle s'appelle, Brie Larson, là, où au tout début, ils se disent tiens, bah, si on va aller boire un verre ensemble. Parce qu'on
oui, une espèce d'histoire d'amour.
Voilà, on va aller boire un coup quand ça sera terminé. Et puis, en fait, si tu veux, il y a une espèce de résolution qui n'est pas du tout payante parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et tu ne sais pas pourquoi d'un seul coup elle fonctionne.
Même le fait
que
Brie Larson soit la seule meuf, ça, c'est pas, finalement, c'est pas travaillé.
Enfin, ouais, bien sûr, voilà. Mais, et puis, t'as à un moment donné cette espèce d'échange qui tourne mal parce que, comment dire, t'as un mec qui tire, qui est planqué dans un. Comment dire, c'est d'ailleurs de là que ça démarre complètement le truc, quoi. Et qui ouvre le feu, et personne ne sait qui c'est, personne. Enfin, à la fin, ils essaient de t'expliquer, de raccrocher les wagons, mais c'est un truc où tu dis, mais pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et t'as un autre truc, en fait, c'est que t'as des persos, et ça, malheureusement. Ça me dérange pas d'avoir des persos qui sont stupides dans un film quand, en gros, ils sont écrits de cette manière-là et que c'est truculent, on va dire, la stupidité de ces personnages-là. Mais t'as des
un
persos
vrai Dalton,
qui
quoi.
Voilà, mais là, voilà, c'est ça. Là, t'as des persos qui sont stupides parce que t'as l'impression qu'en fait le réalisateur ou le scénariste
c'est ça
sont stupides en fait. Et du coup, en tout cas, prennent les spectateurs pour des gens stupides. Donc du coup, c'est enfin l'un ou l'autre, peu importe. C'est-à-dire que et du coup. Bah, tu te retrouves avec des espèces d'aberrations de caractérisation bah, qui finissent par plomber tout, quoi, le film. Quoi. C'est-à-dire que au-delà même de la réalisation qui est vraiment brouillonne, au-delà même du fait qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a même pas une écriture à peu près cohérente et correcte. Donc du coup, voilà, on est...
Mais Musset écrit ses films avec sa femme. Hein.
Donc ça, tu vois, pour le coup, ça devrait être un DTV, et ça devrait même être un DTV qui aurait dû assumer, en fait, son statut de DTV et ne pas, comment dire, essayer de se la jouer on vous ramène à une époque funky des années 70 que vous aimiez bien, tu vois.
Mais ce qui est le problème, enfin, moi, des deux films de Ben Musset, d'ailleurs, que j'ai subi, et où le mec, justement, se prend une espèce de... adopte une espèce de posture d'auteur de film de genre. Voilà. Et donc, il met un petit sel, comme ça, un petit voile, un petit peu autorisant, un petit peu distant, comme ça, pour épicer sa tambouille qui, ma foi, n'est pas bien fameuse. Parce que moi, j'en suis au deuxième film, j'ai pas franchement envie d'explorer
et
la
ça
la
me donne pas très faim, votre histoire. Je crois que je vais rester au régime. Je vais éviter Free Fire de Ben Weasley qui sort la semaine prochaine en salle. Je vais aussi éviter La Momie de Alex Kurtzman.
Et, qui sort la semaine prochaine.
Je vais plutôt regarder en DTV, sur ma télévision. Ou sur mon vidéoprojecteur Revenger de Walter Hill parce qu'on m'avait intrigué
ou tu vas te le commander dans le truc qui livre chez toi.
Voilà, c'est ça, j'ai me commander sur Amazon.
Tu parles, il va m'attraper la semaine prochaine et me dire qu'est-ce que c'est que cette merde.
Non. Bah non, moi je suis comme toi, j'aime bien Walter Hill.
Et Ron Howard
et plein d'autres réalisateurs de talent. Je vous signale juste que le 1er juillet il y aura la nuit des requins avec Les Dents de la Mer, Open Water et Shallows. Ça c'est sur les New Max et surtout je vous signale que la semaine prochaine c'est la soirée Starfix. un double fixe de cinéma à voir à l'Escurial Panorama. Vous allez sur le site de l'Escurial, vous allez sur le site des écrans de Paris, puisque l'Escurial fait partie des écrans de Paris. Et vous allez sur le Facebook des New Max, vous trouverez le rendez-vous. Je pense que Capture a dû le relayer 15 fois sur sa page CaptureMag.net. N'est-ce pas, CaptureMag.net ?
La page CaptureMag.net, c'est la page Facebook, la page quoi, non ?
La page Facebook, ah, Twitter, ouais. Enfin bref. Donc vous venez à cette soirée Starfix parce que vous allez pouvoir revoir en DCP Rambo et Evil Dead. C'est quand même le chef.
Rambo, super performance de Stallone, hein, faut le rappeler.
Ah bah, ouais. C'est super film de Ted Kotcheff et de tout le casting. Il y a vraiment un casting formidable dans ce
Brian
film.
Dennehy.
Exactement. Et une très belle musique de Goldsmith, on le répétera jamais assez. Enfin bref, c'est un grand film à voir sur grand écran. Et l'écran panoramique de l'Escurial s'y prête parfaitement. Et puis vous y retrouverez toute l'équipe de la rédaction du magazine malheureusement disparu Starfix, mais qu'on n'a pas oublié, et on n'oublie pas de se reprojeter de temps en temps parce que les articles étaient vraiment fabuleux, au travers par exemple du livre Starfix qui est sorti, on en avait parlé l'année dernière, et donc les gars seront là pour le signer, pour le dédicacer. Voilà, j'ai fait ma promo, hein, elle est
ouais,
bien.
Tout va bien.
Tout va bien, on est bien. Bah,
tant que tu parles pas d'Amazon ou de Ron Howard.
Ou de Roland, ouais. Mon ami Roland.
Non, c'est fini, on change maintenant, on va passer
à Ron Howard. Allez, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine fois, la semaine prochaine.
Salut David.
Allez, bisous.